Béliard.
8h14 sur Europe 1, mon invité Elisabeth Borne, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Bonjour Elisabeth Borne.
Bonjour.
La vaccination en entreprise, ça commence, je parle sous votre contrôle, jeudi matin.
Ça commence vendredi, très précisément.
Très précisément.
Mais c'est une première étape dans laquelle les salariés vulnérables, très vulnérables, c'est-à-dire ceux qui ont des pathologies chroniques, par exemple des problèmes cardiovasculaires, respiratoires, des problèmes d'obésité, vont effectivement pouvoir être vaccinés par la médecine du travail.
Est-ce qu'on a déjà des chiffres? Enfin, on sait combien d'entreprises, dans combien d'entreprises on pourra demander
à
être vacciné?
C'est vraiment les services de santé au travail qui vont être mobilisés, parce qu'il y a un enjeu important de confidentialité. Comme ça s'adresse à des salariés vulnérables, il ne s'agit pas que l'employeur soit effectivement au courant des problèmes de santé que peut avoir le salarié. Donc ce qu'on demande aux entreprises, c'est de prévenir les salariés que ceux qui sont très vulnérables pourront être vaccinés par la médecine du travail et les salariés pourront contacter directement la médecine du travail.
À quoi ça sert, puisque je peux appeler mon médecin généraliste déjà si je suis un salarié vulnérable?
Bah écoutez, je pense qu'on sait qu'en entreprise, on pratique déjà largement la vaccination contre la grippe. Les entreprises souhaitaient s'impliquer, notamment pour sensibiliser les salariés à l'importance de la vaccination. C'est ce qu'on rend possible à partir de la fin de la semaine. C'est vraiment une première étape, puis ça va monter en puissance. Évidemment, quand...
Vous demandez en fait aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise aussi, quelque part, de relayer cet appel à la vaccination.
Absolument, de relayer cet appel à la vaccination. Je pense qu'ils sont, enfin je suis sûr qu'ils sont prêts à le faire. Les organisations syndicales aussi. Et donc c'est une autre façon de pouvoir se faire vacciner. Mais je vous dis, là c'est une première étape. Quand on donnera accès au vaccin à tous les adultes, alors les entreprises pourront vraiment monter en puissance et faire ce qu'elles font avec la vaccination contre la grippe.
Et puis première étape, parce que pour démarrer, là, les médecins auront, je crois, une dizaine de doses seulement.
En fait, ça démarre avec quelques doses par médecin et puis ensuite on va monter en puissance. C'est le vaccin, vous savez, AstraZeneca, qui n'est pas, en tout cas aujourd'hui, recommandé pour les plus de 65 ans, donc qui va pouvoir concerner les salariés avec ces pathologies chroniques de 50 à 64 ans.
Vous réitérez également votre appel au télétravail généralisé, enfin vous réitérez, Elisabeth Borne, est-ce que vous êtes entendue sur ce point-là? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, parce qu'on a beaucoup de chiffres sur le télétravail, mais est-ce qu'on est capable d'observer son impact sur les données épidémiologiques?
Alors, on a des chiffres précis, on a des études qui ont été faites qui montrent que quand on est en télétravail, on réduit de 20 à 30% le risque de contamination. Donc, c'est vraiment important, à un moment où on voit bien que les chiffres sur l'épidémie ne sont pas bons, de se remobiliser pour le télétravail. C'est ce qu'on a demandé. On a eu une érosion depuis novembre sur le télétravail. Là, on a réussi à arrêter cette érosion. On a une légère augmentation. Il reste des marges de manœuvre. Donc moi, je le dis vraiment aux entreprises, aux salariés. On souhaite tous éviter des mesures plus restrictives, un confinement. Et le télétravail est une bonne réponse.
Oui, parce que l'idée, et là aussi je parle sous votre contrôle, ça a été de maintenir autant que possible les écoles et le cadre du travail quand c'est nécessaire. Ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, c'est que le scénario d'un confinement du travail, la façon du printemps 2020, est toujours sur la table.
Bah écoutez, on prend les mesures appropriées en fonction de l'évolution de l'épidémie. Ces derniers jours, les chiffres sont pas bons. On voit qu'on a à nouveau une augmentation du nombre de cas positifs, qu'on a une forte pression sur nos hôpitaux. Donc il faut qu'on fasse tous le maximum pour ralentir la propagation du virus. Et moi, je réunirai vendredi prochain à nouveau, vous savez, les secteurs dans lesquels l'érosion avait été le plus marquée, notamment la banque, l'assurance, l'ingénierie, le conseil, pour faire le point sur ce qu'ils ont pu faire depuis que nous nous sommes rencontrés. On sait que les situations sont assez contrastées. Par exemple, dans le secteur bancaire, il y a des banques qui jouent très bien le jeu, il y en a qui le jouent moins, et elles font l'objet de contrôles par les services de l'inspection du travail, et on pourra leur dire vendredi si c'est en train de s'arranger ou pas.
Oui, il y a des bons élèves, des moins bons élèves dans chaque secteur.
Je vous confirme qu'il y a il y a des bons et des moins bons.
Vous ne donnez pas de nom encore?
Pas encore.
Pas de name and shame ce matin
encore,
dans le secteur bancaire. Il y a d'autres secteurs en particulier qui attirent votre attention?
C'est vraiment des secteurs, la banque et l'assurance, c'est des secteurs où on peut télétravailler, où ça avait été fait largement au mois de novembre, où on voit que certaines ont continué et d'autres pas. Celles qui n'ont pas continué sont contactées par l'inspection du travail qui va faire des inspections encore en cette fin de semaine. On fera le point en fin de semaine.
quel type de sanctions est-ce qu'il faut attendre ?
Vous savez, il y a des mises en demeure. Dans 90% des cas, quand on a une mise en demeure, l'entreprise se remet sur des bons rails. Et puis, parfois, on est obligé de passer par des sanctions plus fortes. Ça peut aller jusqu'à des référés judiciaires. Je crois que chacun peut être responsable. Moi, je suis consciente que tout le monde commence à trouver que ça fait longtemps, ce télétravail. Mais là, on a vraiment un enjeu d'éviter un nouveau confinement. Donc, chacun doit jouer le jeu au maximum.
Le quoi qu'il en coûte, combien de temps, Elisabeth Borne ? C'est presque la question obligatoire. Le chômage partiel et les aides qui vont avec, sont-ils garantis tant que le virus ne sera pas vaincu ?
Moi, je le dis très clairement, tant qu'il y aura des restrictions sanitaires, des établissements, des entreprises qui sont fermées, totalement, voire partiellement, alors on continuera à maintenir une prise en charge à 100% de l'activité partielle pour ces entreprises. Donc ça veut dire que l'État continue à assurer la rémunération des salariés quand ils peuvent pas travailler. On l'a fait jusqu'à près de 9 millions de salariés au printemps, encore plus de 3 millions pendant le confinement de novembre.
Aujourd'hui, ils sont combien soutenus par le chômage partiel ?
De l'ordre de 2 millions de salariés qui sont encore soutenus par le chômage partiel dans ces secteurs précisément qui ne peuvent pas travailler. C'est très important hein, parce que vous savez, ça a permis de contenir assez largement l'augmentation du chômage. On n'a pas du tout eu les chiffres qu'on avait eu dans la crise de 2008-2009 où on avait eu une augmentation de 25% du chômage. Là, on est autour de 8%. Et évidemment, comme la crise continue, on va continuer à accompagner des entreprises, notamment avec l'activité partielle.
Et combien d'entreprises font encore appel aujourd'hui à l'activité partielle ?
Alors, il y en a beaucoup, hein, puisqu'on a près de 2 millions de salariés qui sont en activité partielle. La bonne formule quand on a une activité qui baisse durablement, c'est l'activité partielle de longue durée. Vous savez, c'est des accords au sein des entreprises pour partager l'activité entre tous les salariés et l'État prend en charge la partie qui n'est pas travaillée et ça permet aussi de se former. L'objectif, c'est vraiment de ne pas faire ce qu'on avait pu faire en 2008-2009 où des entreprises avaient licencié les salariés, ce qui est tout d'abord traumatisant pour le salarié et puis qui, au moment où l'activité économique repart, on se rend compte qu'on n'a plus les compétences dont on a besoin. Donc il faut garder les salariés, les former pour que l'entreprise soit plus forte en sortie de crise.
Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics, estime que le niveau des dépenses publiques n'est pas soutenable dans le temps. Et vous me dites que tant qu'il y aura l'épidémie, tant qu'il y aura le virus, le quoi qu'il en coûte, le chômage partiel sera maintenu.
Je dis que évidemment, tant qu'il faut protéger les emplois, on le fera. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent et qu'on va continuer à faire tant qu'il y aura des restrictions sanitaires.
Autre point, Elisabeth Borne, sur lequel votre parole est attendue, la réforme de l'assurance chômage. Alors petit rappel succinct autant que possible, les partenaires sociaux en désaccord, le gouvernement qui tranche, personne n'est content, la crise reporte son application. Cette réforme, elle est remise sur la table, est-ce que vous y croyez ? Est-ce qu'il y a de l'espace politique là, dans le débat pour remettre la réforme de l'assurance chômage sur la table ?
Écoutez, moi je pense que cette réforme de l'assurance chômage, elle est nécessaire avec deux objectifs. D'abord, lutter contre la précarité, notamment le recours excessif aux contrats courts. C'est le système de bonus-malus qu'on propose pour les entreprises. Un malus quand elles font plus appel que les autres à des contrats courts. Et puis c'est aussi un enjeu d'équité. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous travaillez à mi-temps tous les jours ou un jour sur deux à temps plein, in fine, vous avez travaillé le même nombre d'heures et vous n'avez pas du tout la même allocation chômage. Donc, il faut aller au bout de cette réforme. On a eu beaucoup de discussions avec les organisations patronales et syndicales. Moi, je suis aussi consciente...
Que vous vouliez aller au bout, c'est une chose, mais au-delà du fond même de la réforme, on parle d'assurance chômage, j'aurais pu vous parler de la réforme des retraites. Il n'y a pas un petit côté méthode Coué ? Comment est-ce qu'on peut imaginer, là, le 23 février, qu'on va passer ces réformes avant la présidentielle ?
Bah, écoutez, moi, je réunis les organisations patronales et syndicales la semaine prochaine.
Qui vous disent qu'ils n'en veulent pas.
Et on pourra faire le point sur tous les échanges qu'on a eus.
Je peux déjà vous dire, ils vous disent qu'ils n'en veulent pas.
J'ai bien compris. Moi, je pense qu'il faut tenir compte du contexte de la situation du marché du travail. C'est ce qu'on a proposé. On est prêt à adapter le calendrier. On est prêt aussi à adapter les règles en tenant compte de la situation du marché du travail. Et c'est ce que je présenterai mardi prochain aux organisations patronales et syndicales.
Vous avez une botte secrète, un argument qui va les faire plier ?
Vraiment, je pense que les organisations patronales et syndicales pourront constater qu'on a écouté qu'on a pris en compte des remarques, qu'effectivement tout le monde n'est pas forcément d'accord à la fin, effectivement c'est le gouvernement qui tranche, mais qu'on a vraiment adapté cette réforme et qu'on est prêt à l'adapter pour tenir compte de la conjoncture, de la situation du marché du travail.
Nous avons parlé des aides, parlons des jeunes plus spécifiquement. Hier matin, sur Europe 1, à votre place, le grand patron Louis Gallois vous appelait à changer d'avis sur le RSA des 18-25 ans. C'est la position du gouvernement qui est contre l'idée que les jeunes commencent dans la vie active par des aides sociales. Avis que partageait Louis Gallois dans un premier temps, écoutez-le.
J'ai changé d'avis parce que la situation des jeunes s'est dégradée. Quand vous n'avez aucune ressource, vous ne pouvez pas chercher de travail. Je pense qu'il faut leur donner les ressources qui leur permettent de s'engager dans une véritable recherche d'activité. Et pour cela, je pense que le RSA, c'est le minimum qu'on puisse leur accorder.
Est-ce que votre position n'est pas simplement dogmatique, Elisabeth Borne?
Non, mais pas du tout. Qu'il faille aider financièrement les jeunes qui ne s'en sortent pas, évidemment, il n'y a pas de doute là-dessus et c'est bien ce qu'on fait.
Mais il y a un tabou.
Par contre,
cette question du RSA chez les moins de 25 ans.
Un certain nombre de groupes politiques veulent le RSA pour les jeunes. Moi, je dis qu'on doit plus que ça aux jeunes. On leur doit d'abord un accompagnement vers l'emploi. C'est ce qu'on fait, par exemple, avec la garantie jeune. Vous savez, c'est un dispositif qui marche très bien, dans lequel le jeune est accompagné. Il y a des ateliers collectifs, il y a du coaching, il y a de l'immersion en entreprise et il y a une allocation de près de 500 euros par mois. On a doublé le nombre de places en garantie jeune. On est passé de 100 000 à 200 000 cette année. On a systématisé ce principe d'une aide financière quand on a un accompagnement vers l'emploi. Et c'est ça qu'on veut, c'est répondre à la situation des jeunes là, dans l'immédiat, avec une aide financière, mais c'est surtout les accompagner vers un emploi durable. Et c'est ce qu'on appelle la garantie jeune universelle. Moi, je suis convaincu que c'est la bonne réponse. Les jeunes, ils ne veulent pas juste une allocation. Ils veulent gagner leur autonomie dans la durée en arrivant sur un emploi.
Et cette question du RSA ne reviendra pas sur la table, pas de changement d'avis.
Mais écoutez, moi je pense qu'avec la garantie jeune universelle, ce qu'on propose c'est mieux, je vous dis, c'est répondre immédiatement aux difficultés financières, mais c'est accompagner les jeunes pour qu'ils trouvent un emploi. Et moi je suis convaincu, vous savez que les jeunes, on en a un certain nombre qui sont sortis du système scolaire, du système éducatif, qui n'ont pas de projet professionnel. Ce qu'on doit faire, c'est les aider à bâtir un projet professionnel et à le mettre en œuvre. Et c'est bien ça qu'on veut faire pour chaque jeune.
Un dernier mot, les jeunes toujours, la question de l'apprentissage. On s'est réjoui des bons chiffres 2020, 500 000 jeunes, plus 40% en un an. Enfin, des bons chiffres sur l'apprentissage. Et là, 6 mois après la rentrée, on a le problème de ceux qui n'ont pas de contrat en entreprise. Ils sont 30 000 au 15 février. Est-ce que c'est lié au Covid? Est-ce qu'on les a envoyés au casse-pipe?
Non, écoutez-moi, je suis évidemment attentive à la situation de ces quelques milliers de jeunes. Vous l'avez dit, on a plus de 500 000 jeunes qui ont un contrat d'apprentissage. Quelques milliers qui n'en ont pas, on va les accompagner individuellement pour que là aussi, chacun puisse avoir une réponse. Les préfets, les recteurs, les entreprises sont mobilisées et je n'ai pas de doute qu'on va trouver une solution.
On vous réinvitera pour reparler de la solution de ces 30 000 jeunes. Merci Elisabeth Borne. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions ce matin. Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion en direct sur Europe 1, il est 8h27.